Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Odémilie Judaïc et Annabelle Brouard vous proposent le portrait de l'écrivain français Pierre Gripari. Né à Paris le 7 janvier 1925 et mort dans cette même ville le 23 décembre 1990, il a exploré à peu près tous les genres. Excellent connaisseur des patrimoines littéraires nationaux, il sait aussi mettre à profit les mythes et le folklore populaire, sans dédaigner les récits fantastiques et la science-fiction. On lui doit aussi bien des romans que des nouvelles, des poèmes, des récits, des contes, des pièces de théâtre et des critiques littéraires. Mais Pierre Gripari est surtout connu du grand public comme un écrivain pour enfants. Son œuvre la plus célèbre, Les Contes de la rue Broca, paraît en 1967. Les premières éditions des Contes de la rue Broca passent inaperçues, mais leur réédition par Gallimard lui apporte succès et célébrité. Ce recueil est traduit dans le monde entier. Il reçut en 1976 le prix Voltaire pour l'ensemble de son œuvre. En 1988, il obtient le prix de l'Académie française pour ses contes cuistres.
On va interviewer Pierre Gripari.
Gripari.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit bout d'histoire?
Ah oui, je peux raconter un petit bout d'histoire.
Voilà, la rue Broca.
Est-ce que vous aimeriez pas mieux que j'en raconte une que vous connaissez pas?
Oui.
Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'histoire.
Une vie, une œuvre. Pierre Gripari, l'alchimiste.
Pierre Gripari est né il y a plusieurs siècles, dans la petite ville de Lutèce, en Gaule. Sa mère était une sorcière viking, et son père, un magicien grec. Ils s'épousèrent par amour, mais leur union ne fut pas heureuse. La mère espérait que le père utiliserait sa magie orientale pour fabriquer de l'or, mais le père s'y refusait. De son côté, elle abusait de la potion magique et finit un beau jour par se noyer dans son chaudron. Quelques années plus tard, le père était foudroyé par un feu descendu du ciel. De cette double ascendance, Pierre Gripari tient le don d'écrire des grimoires. Peut-être en avez-vous vu quelques-uns ? On les reconnaît tout de suite parce qu'il y est toujours question de diable et de sorcière.
Qui était Pierre Gripari? Pour l'enfant que je fus, bercé par les contes de la rue Broca et de la folie Méricourt, Gripari était un magicien. Il faisait de mes voisins immigrés des héros et il mettait dans mon petit quotidien de la magie, de la poésie et de la fantaisie. Car Monsieur Pierre n'avait pas son pareil pour ajouter aux situations les plus ordinaires une pincée d'absurdité, une larme d'ironie et une bonne dose de merveilleux. Telle était la potion magique de Pierre Gripari, la recette de son succès auprès des grands et des petits. À l'époque, je l'imaginais devant son chaudron, faisant mijoter des histoires, plongeant dans un grand bouillon folklorique. Car Gripari avait le talent de puiser aux sources des récits universels, adaptant les contes et légendes populaires, s'inspirant de la mythologie antique, ou encore détournant la Bible. L'humour féroce dont il faisait preuve lui permit de compter parmi la joyeuse bande des Papous dans la tête, ici même sur France Culture. Mais peu à peu, ses facéties et ses provocations lui valurent d'être taxé de xénophobie et même de fascisme. En se rapprochant inexorablement de l'extrême droite, Pierre Gripari est pour beaucoup devenu infréquentable. Aujourd'hui encore, près de 30 ans après sa mort, son œuvre dérange autant qu'elle fascine. Mais par quelle alchimie Gripari le magicien s'est-il transformé en apprenti sorcier? Est-ce encore un de ses tours de passe-passe? Pour le savoir, entrons dans son univers, dans ce Paris chargé d'histoire, avec Damien Bricoteau.
Sa première inspiration, c'est le pavé parisien, quoi.
Comédien et metteur en scène de théâtre.
C'est un vrai amoureux de Paname. Alors après, c'est des textes qu'on peut évidemment exporter, mais je pense que les Parisiens, ils sont sensibles parce qu'ils parlent de leur ville. Il a pas mal parlé évidemment de ce quartier, de la rue Broca, mais aussi dans le 11e de Méricourt. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses qui sont parties du pavé parisien. Quoi. Et des rues, et des ambiances, et des boutiques qu'il y avait autour de lui. Enfin voilà, de cette âme-là qu'on cherche tous un peu de manière un peu nostalgique maintenant, mais qui était, j'imagine, beaucoup plus présente dans les années 70 quand il a vraiment mis en route tous ces écrits-là. C'est vraiment ça, le réalisme fantastique. L'extraordinaire qui jaillit dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans la vie des gens, dans une rue, dans un coin de rue, dans un café, dans une épicerie, surgit la sorcière, surgit une fée du robinet, surgit une paire de chaussures qui parle. Voilà. Et c'est vrai qu'il dit... Je considère que le plus important pour moi, c'est de raconter des histoires. Et il met au rang des grands bienfaiteurs de l'humanité, Dickens, voilà, des gens qui racontaient des histoires. Il y a ce côté, il était une fois, qui est très touchant en fait, et qui est très important, je trouve, surtout de nos jours. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'évader de ce quotidien un peu, parfois un petit peu plombant, un petit peu pesant, un petit peu lourd, quoi. Il faut se dire que dans ce quotidien peuvent jaillir tout d'un coup des choses un peu folles, un peu décalées.
Et on en revient à cette idée que le réel et la fiction s'interpénètrent.
Ouais, sont complètement mélangés, comme s'il n'y avait pas de frontière, comme si la frontière était extrêmement ténue. Et théâtralement, c'est passionnant, parce que, voilà, moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est justement ce basculement entre la vie réelle et une espèce de vie fantasmée, en tout cas un peu extraordinaire. Et Gripari, toute son œuvre littéraire, elle ne tourne qu'autour de ça.
Vous connaissez l'histoire de l'histoire ?
Non.
Ah, c'est dans un livre qui s'appelle « L'histoire du prince Pipo ». Alors, je commence, que j'ai écrit. Moi. Alors, il était une fois un monsieur qui s'appelait Monsieur Pierre. Drôle d'idée de s'appeler Monsieur Pierre, vous me direz, je sais pas, moi, à sa place, j'aurais choisi un autre nom, mais enfin, il s'appelait Monsieur Pierre. Bon. Pardon.
C'est pas toi ?
C'est pas... Hein ? Qui a aboyé ? Oui, c'est moi. Alors, Monsieur Pierre, un beau jour, il dormait dans son lit, dans sa chambre d'hôtel. Et puis, la fenêtre était entrouverte parce qu'il faisait chaud. Et pourtant, Monsieur Pierre, il est frileux, vous savez. Et alors, par la fenêtre entrouverte, s'est glissée en volant une petite chose qui avait des ailes transparentes et qui ressemblait à une jeune fille. Et cette petite chose, c'était le germe d'une histoire. Et alors cette histoire, elle est entrée dans le rêve de Monsieur Pierre et elle s'est mise à se raconter elle-même dans son rêve. Et Monsieur Pierre, il s'est dit « Oh, quelle jolie histoire. Oh, je me la repasse encore un petit coup comme au cinéma. Et puis après ça, je vais me réveiller et puis la noter pour ne pas l'oublier. » Et alors il s'est répété l'histoire deux fois, l'histoire trois fois, comme au cinéma, dans son rêve. Et alors il a ouvert un œil et il s'est dit « Ah, maintenant il faudrait que je me lève. » Mais alors le lit était chaud, il avait encore sommeil. Oh, il s'est dit, non, je l'oublierai pas, cette histoire, je la garde pour demain matin. Et il s'est rendormi. Mais voilà, le lendemain matin, il se rappelait bien qu'il avait rêvé de quelque chose d'intéressant, mais l'histoire, il l'avait oubliée. Et alors, la pauvre petite histoire, elle était toujours là, mais invisible. Elle voletait autour de lui, elle se perchait sur ses épaules, elle se mettait à son oreille, elle disait « Raconte-moi, je suis une si belle histoire !» Alors, Monsieur Pierre, pendant ce temps-là, il était en train de se brosser les dents. Et il me semble que j'ai rêvé d'une histoire. Oui, mais quelle histoire ? L'histoire d'un prince ! Est-ce que c'était pas l'histoire d'un marchand de fromage ? Non, d'un prince. Et Monsieur Pierre n'entendait toujours pas. Et puis Monsieur Pierre, il a dit, si elle était si belle que ça, cette histoire, je m'en rappellerai. Et puis l'histoire, il y pensait plus. Et alors, elle a eu la chance de rentrer une nuit par la fenêtre entrouverte. Et cette fois-ci, elle est revenue dans son rêve et il l'a reconnue. Et il lui a dit, mais c'est toi l'histoire dont j'ai rêvé l'année dernière. Oui, c'est moi. Alors raconte maintenant. Je ne peux pas, j'ai trop froid. Si tu as froid, couche-toi auprès de moi et dors. Et alors, Monsieur Pierre, il a dormi avec son histoire. Et le lendemain matin, alors il n'a pas perdu de temps, il a sauté sur le crayon à billes et sur le papier, il l'a noté. Et ça a donné un livre qui s'appelle « Histoire du prince Pipo ».
Cette rue, là, quand on est en haut de la rue Mouffetard, on n'est pas très loin de la place de la Contrescarpe, vous voyez. Tous les matins, à l'heure du marché, il y avait un grouillement, puis des étalages qui débordaient sur la rue et tout ça.
Anne-Martin Conrad.
La rue Mouffetard, c'est la beauté du mot qui l'a séduit pour sa sorcière.
Fondatrice de l'association des Amis de Pierre Gripari.
Maintenant, il y a plutôt des boutiques, ça a bien changé.
Mais c'est vrai que quand on se balade ici, rue Mouffetard là en particulier, quand on voit tous ces toits, cette petite rue un peu alambiquée, ces immeubles qui s'encastrent comme ça, ça donne une impression de petit village du Moyen-Âge, encore alors qu'aujourd'hui, effectivement, la rue est bordée de boutiques chics et de traiteurs hors de prix.
C'est un très vieux quartier de Paris. Hein. Saint-Médard, l'église devant laquelle on est passé tout à l'heure, c'est une église qui a été tenue par des jansénistes au XVIIIe siècle et ça s'est terminé avec des scènes de... de possession. Enfin, c'était un truc assez particulier. C'est vraiment un quartier ancien, oui.
Et Paris est arrivé dans ce quartier après avoir habité dans plusieurs chambres de bonne et autres pensions de famille, hôtels meublés, plutôt sur la rive droite, quand il est arrivé à Paris, vers 1950. En 1962, on a joué de lui une pièce qui s'appelait « Lieutenant Tenant » et qui a eu beaucoup de succès. Elle a tenu toute une saison, il a gagné un peu d'argent, ce qui était extraordinaire pour lui. Et il est venu s'installer ici dans un hôtel meublé qui s'appelait le Plaisant Logis. Il est resté donc de 1963 à 1978, c'est dire qu'il était absolument imprégné du quartier. Il n'était pas du tout l'écrivain intellectuel pour les gens du quartier. Manifestement, il entretenait vraiment des relations de voisins. Il était très chaleureux, très gai dans ses conversations, dans ses relations avec les gens. Oui, 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 tout à fait. Comme il n'était pas célèbre, bon, ça n'intimidait pas ses interlocuteurs. Donc, il était ami avec les gens du quartier et il échangeait des petits services. Par exemple, il tapait à la machine pour le tapissier d'en face, il lui tapait ses factures. Il faisait la même chose pour une libraire qui était un petit peu sur le boulevard de Port-Royal aussi, près de chez lui. Il était absolument intégré dans ce quartier. Là, on arrive dans les contrées mystérieuses de la rue Broca. On descend l'escalier.
La rue Broca n'est pas une rue comme les autres. Si vous prenez un plan de Paris, vous verrez, ou vous croirez voir, que la rue Pascal et la rue Broca coupent à angle droit le boulevard de Port-Royal. Si, confiant dans cette indication, vous prenez votre voiture et enfilez le dit boulevard, en espérant tourner dans l'une ou l'autre de ces rues, vous pourrez 100 fois de suite faire la navette entre l'Observatoire et les Gobelins, vous ne les trouverez pas. L'explication de cette anomalie, vous ne la trouverez pas sur le plan, parce que le plan n'est qu'à deux dimensions. Tel l'univers d'Einstein, Paris en cet endroit présente une courbure et passe, pour ainsi dire, au-dessus de lui-même. Je m'excuse d'employer ici le jargon de la science-fiction, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. La rue Broca, comme la rue Pascal, est une dépression, une rainure, une plongée dans le subespace à trois dimensions.
Alors voilà, quand on avance dans la rue Broca, on finit par passer sous le boulevard du Port-Royal. Là, les voitures passent au-dessus de nos têtes. Et des graffeurs sont venus décorer les murs sur le thème, vraisemblablement, de Pierre Gripari. C'est pas possible autrement, parce que les références sont partout. Ouais, les sorcières, les balais, les monstres qui lisent des livres. C'est très coloré, en plus.
Et puis, on retrouve ce truc dans l'urbain, jaillit tout d'un coup autre chose, quoi. Et ça, c'est vraiment super. C'est un vrai bel hommage à Gripari, ça.
Monsieur le notaire, je voudrais savoir ce qui se passe dans cette maison. Eh bien, dans le placard au balai, il y a une sorcière. Et si vous lui chantez une chanson, cette chanson, « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle vous emportera au pays des sorcières à tout jamais. Mais est-ce qu'elle a vraiment existé, la chanson « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière »
Maintenant, elle existe naturellement. Mais à cette époque-là, non, c'était une mauvaise pensée qui me venait comme ça. C'est de la faute du notaire.
Et vous l'avez dit ?
Ah oui, oui, bien sûr que je l'ai dit.
Oh, la porte ouverte.
La sorcière, elle attendait que j'aille jusqu'au bout pour m'attendre.
Et est-ce que la sorcière a existé ?
La sorcière, un petit peu qu'elle existe, la sorcière, c'est moi.
La sorcière du placard au balai, c'est lui. Le gentil petit diable, encore lui. Le marchand de fessées, toujours lui. Gripari, l'écrivain magicien, avait le don de se transformer et de s'incarner en de bien étranges personnages. C'est qu'à force de lire et de relire tout ce que le monde compte de mythes et légendes, il avait fini par percevoir la complexité derrière l'apparente simplicité de ses récits, mais aussi l'humanité cachée sous le masque de la monstruosité. Il avait notamment une vraie tendresse pour les sorcières, les Baba Yaga du folklore russe, dont il entreprit de traduire et surtout de réécrire les histoires pour les adapter au monde d'aujourd'hui. Redonner ses lettres de noblesse aux contes et raviver l'éclat des archétypes universels, telle était la pierre philosophale de Gripari l'alchimiste.
Au numéro 69 de la rue Broca, il y a une épicerie buvette dont le patron, Papa Saïd, est un kabyle, marié à une bretonne.
À l'époque dont je parle, il avait 4 enfants, 3 filles et un garçon. Il en a eu un 5e depuis. L'aînée des filles s'appelle Nadia, la seconde Malika, la troisième Rachida. Et le petit garçon, qui était alors le dernier-né, s'appelle Bachir. Un jour que M. Pierre était assis à une table, en compagnie de son éternel café crème, les enfants près de lui, voici que de lui-même, il se mit à leur raconter une histoire. Le lendemain, sur leur demande, il en raconta une autre. Et puis, les jours suivants, d'autres encore. Plus il en racontait, plus les enfants lui en demandaient. Monsieur Pierre dut se mettre à relire tous les recueils de contes qu'il avait lus depuis son enfance, à seule fin de pouvoir satisfaire son public. Il raconta les contes de Perrault, des contes d'Andersen, de Grimm, des contes russes, des contes grecs, français, arabes, et les enfants en réclamaient toujours. Au bout d'un an et demi, n'ayant plus rien à raconter, Monsieur Pierre leur fit une proposition. On se réunirait tous les jeudis après-midi, et l'on inventerait ensemble des histoires toutes neuves. Et si l'on en trouvait assez, on en ferait un livre. Il les a faits pour et par des enfants.
Et avec.
Et donc, il y a quelque chose de très juste, de très bien vu là-dedans. Avec ce supplément auquel je suis très sensible, qui est la littérature. C'est-à-dire quelqu'un qui a le goût des mots, quelqu'un qui a le goût des phrases, qui a le goût de la poésie, qui a le goût des mots qui sonnent ensemble. Il avait vraiment ce goût-là. Et ça, on le retrouve aussi bien dans la littérature pour enfants que dans sa littérature pour adultes.
Mais oui, sa littérature, elle a un côté très musical.
Complètement.
Très chanté, et finalement c'est presque déjà une œuvre théâtrale ou radiophonique.
J'en suis persuadé. Et moi qui ai beaucoup adapté les textes de Gripari, finalement l'adaptation, je ne veux pas me dénigrer, mais c'est un travail très simple chez Gripari. Par exemple, à chaque fois, je me suis obligé à ne garder que les mots de Gripari. Parce que ces mots se suffisent à eux-mêmes et que c'est une langue qui est très belle à lire et qui est très belle à entendre aussi. Âme. Présent. Stram, présent. Gram, présent. Collégramme, présent. Ratatam. Eh bien quoi, Ratatam? Pardon, mon lieutenant, mais Ratatam, c'est vous. Ah zut, c'est vrai, Ratatam, c'est moi. Donc, Ratatam, présent. Votre patrouille, dit le capitaine, a été spécialement créée à la demande expresse du nouveau ministère du Comte et de l'Environnement culturel. Votre tâche, ou plutôt notre tâche à tous, est de moraliser, de démocratiser les contes pour enfants en les purgeant de tout ce qu'ils peuvent contenir de nuisible au point de vue moral, social et idéologique. Vous me suivez ? Silence. Pour cela, il faut y supprimer, réprimer, prévenir le meurtre, bien entendu, mais également la cruauté envers les animaux, la fraude, la déloyauté, le vol, ainsi que l'esprit de caste, les préjugés racieux, religieux, nationalistes et nobiliaires. En un mot, tout ce qui tient aux survivances d'une mentalité chrétienne, féodale ou monarchique. Cette fois, vous m'avez bien compris ? Oui, mon capitaine. À la bonne.
On va tirer la bobinette et voir si la chevillette chère.
Voilà, ben on va... Vous allez visiter les lieux. Alors, j'ai besoin... Oui, c'est ça. Une fois que j'ai rempli un endroit, j'oublie de ranger. Je suis en saturation complète d'espace. Par exemple, l'endroit où j'ai fait toutes les illustrations, que la centaine de bouquins que j'ai dû illustrer, c'est fait essentiellement ici.
Vous avez ici les livres de Gripari. Pierre, oui. Les pipis de Céro, une sorcière, Conte d'ailleurs et d'autre part, Jean-Yves à qui rien n'arrive, La sorcière et le commissaire, enfin vous en avez illustré quand même une bonne dizaine.
Une bonne dizaine, oui. Oui, ils sont là.
Les contes de la folie Mirecourt.
Les contes de la rue Broca. Ça, c'est les livres que Pierre Gripari m'a dédicacés à Claude Lapointe, mon très génial illustrateur, avec l'assurance de mes sentiments les plus coquins. Voilà, on a Gripari là-dedans.
Vous dire. Il disait quand même que vous étiez son illustrateur préféré, et de loin.
Oui, il l'a dit. Mais je crois que, disons qu'il y a une raison de langage, dans nos langages chacun, c'est-à-dire lui, le texte évidemment, et moi, l'image, on pratique quelque chose qui est de la simplicité pure pour atteindre directement l'histoire. C'est-à-dire, je ne fais pas d'effet de style, je ne fais pas d'effet graphique, surtout pas, je dirais. Ce que j'aime, c'est que l'illustration soit transparente et qu'elle mène directement au récit. Et je crois que quand je lis ces textes, ils sont aussi écrits avec une simplicité, une limpidité. Quand il utilise l'écriture, c'est pas pour faire des rondes phrases. Le mot juste.
La précision
qui nous fait plonger, nous lecteurs, dans ces histoires à lui, complètement folles et voilà quoi.
Mais alors justement, c'est dans Le Marchand de fessiers que c'est extraordinaire l'univers que vous avez réussi à créer.
Moi, la grosse difficulté que j'ai eue, d'ailleurs, je crois qu'il le met dans une lettre, ça avait été de créer le personnage du Marchand de fessiers. Et apparemment, pour lui, c'était réussi, puisque je combinais à la fois toutes les qualités et les défauts qu'il a voulu pour se concentrer sur ce bonhomme.
Alors, on le voit, ce Marchand de fessiers, avec son chapeau de forme, ses favoris.
Il y avait tout, la méchanceté, il se frotte les mains
jubile.
D'avance, il jubile littéralement, et la fameuse fessée.
Alors, la fameuse fessée domestique. Le texte dit qu'il s'agit d'un oiseau ou d'un papillon, avec de grandes ailes qui battent les fesses des enfants.
Bonjour mes petites fessées, bonjour mes toutes belles. On a bien dormi. Ouh, t'as pas bonne mine toi. Il vous faudrait quelques bonnes paires de fesses pour vous dégourdir les mains. Et voyez-vous, les enfants ne font plus de bêtises par ici. Ils sont polis et obéissants. Alors, naturellement, c'est le chômage des fessées. C'est la crise. Fichue éducation moderne. Et j'ai plus qu'à fermer la boutique.
On voit cette fameuse fessée qui sort de sa coquille. Alors, en latin, c'est la domesticus.
Flip, flap, boum. On voit tout de suite le sérieux de la connaissance que je peux avoir de ces fessées.
Parce que vous avez aussi illustré d'autres auteurs de contes. Vous avez illustré les frères Grimm, vous avez illustré Perrault. Pour vous, quelle est la spécificité de l'illustration des textes de Pierre Gripari?
La première, c'est qu'il était vivant. Moi, je ne connais pas très bien le personnage, je ne l'ai pas rencontré longtemps, mais il était tellement bonhomme, rond comme ça. C'est vrai qu'il avait un regard de temps en temps un peu sarcastique sur les choses, un peu pas dur, non, c'est pas le mot. C'était rentré en tous les cas. Et ça se lisait entre les deux sourcils, les plis, qui contredisaient le sourire toujours avenant et rond. Et j'aimais beaucoup ça, je trouvais ça intéressant. Et ça permet peut-être de parler de Monsieur Pierre, le personnage des récits. C'est-à-dire que Monsieur Pierre, c'est-à-dire l'auteur, intervient dans les récits. J'aimerais parler du portrait que j'ai fait de lui.
Des portraits,
oui, oui. C'est-à-dire que dans les premiers récits, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai fait un personnage qui ressemblait à l'idée que je me faisais d'un Monsieur Pierre. Et je l'ai su après, il aimait beaucoup ce portrait que j'avais fait de lui. C'est lui ? Oui.
Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on voit la tête que vous aviez faite avec Pierre Gripari quand même. Moi, je comprends qu'il ait beaucoup aimé ce portrait, parce que ce qui est impressionnant quand on le voit, c'est que c'est la figure du conteur, de l'enchanteur. Il est dans un costume vert bouteille, avec une grande cape, une grande barbe et grande moustache rousse, mais vraiment qui fait penser à un... C'est le patriarche, c'est le sage. D'ailleurs, les enfants sont accroupis autour de lui et écoutent.
Ah oui, c'est le
conteur. On ne peut plus attentivement.
Mais je suppose qu'il se sentait bien derrière toutes ces choses que j'avais rajoutées, comme observateur des choses, parce qu'un conteur vient avec des trésors. Il a des choses dans les replis de son manteau, il y a plein d'histoires à dire.
Est-ce que pour vous, Pierre Gripari, c'est un auteur jeunesse ou c'est un auteur tout court ?
Non, c'est un auteur tout court. C'est un auteur tout court, mais de même que moi, pour moi, le théâtre jeune public, ça ne devrait pas exister dans le sens qu'on fait du théâtre. Et Gripari, quand il écrit pour les enfants, il s'adresse à tout le monde, avec une exigence, avec beaucoup de bienveillance, mais avec aussi une exigence en disant « Attention, on ne va pas faire bonjour les enfants, non, je vais vous raconter des histoires, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. »
Et notamment, il leur donne la clé pour dépasser leurs peurs, pour les exorciser par l'humour.
C'est ça, exactement. Il donne aux enfants cette arme incroyable qui est l'humour. Trouver ce décalage, quand tu comprends ça quand t'es gamin,
était invincible.
C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il est resté un enfant un peu toute sa vie, en tout cas qu'il a volontairement cultivé cette vision enfantine sur le monde.
Je pense que c'est un combat. Je pense que c'est garder l'enfance et surtout ne pas se renier et garder la curiosité, la naïveté dans le bon sens du terme, l'émerveillement. Enfin, je pense que c'est battu pour ça.
Gripari disait que l'humour, c'était le frère de l'angoisse. Pour affronter le monde, il avait choisi de pratiquer l'ironie, de se tenir à distance pour rester à l'abri des regards et des commérages. Car en vérité, l'enfance du petit Pierre Gripari n'avait rien d'un conte de fées. Hanté par son roman familial, il n'a eu de cesse de réécrire sa vie, de la réinventer pour la réenchanter. Toute son œuvre est autobiographique. Depuis son premier roman, Pierrot la Lune, publié en 1963, jusqu'à ses contes, poèmes et pièces de théâtre. Anne-Martin Conrad, fondatrice de l'Association des Amis de Pierre Gripari, lève le voile sur la part d'ombre de ce mystérieux monsieur Pierre.
Il est né d'un drôle de couple, 1925. Son père était un émigré grec, mais il était ingénieur, c'était pas du tout un misérable. Il était arrivé en France, il s'était fait naturaliser français, il était très bien intégré. Ça, c'était dans les années d'après la guerre de 14. Il a rencontré une femme qui était assez libérée pour l'époque aussi. Elle était autonome, elle travaillait, elle gagnait sa vie. Elle était montée à Paris, elle aussi. Elle était exilée par rapport à la Normandie. Et donc, ils se sont rencontrés. Ses parents ne se sont pas entendus. Ça n'a fait que se gâter. La mère a pris un amant. Ça s'est mal passé. Elle s'est mise à boire parce qu'elle avait un chagrin d'amour. Il lui soutirait de l'argent. Il était originaire d'un petit village du Val-de-Loire qui s'appelle Saint-Dié-sur-Loire. Et comme elle voulait le voir souvent, elle avait contraint son mari à acheter une maison de campagne à Saint-Dié-sur-Loire. Mais bon, c'était une situation qui n'était pas très, très confortable, c'est sûr. Il était hypersensible parce que si on lui manifestait quelques méfiances ou quelques moqueries, enfin, il était plus sensible que n'importe qui, vraiment. Alors je pense qu'enfant, il a dû souffrir de ça. Il n'avait pas beaucoup d'amis, il était très seul et très isolé.
Je crois que le fantastique, je ne cherchais même pas à le retrouver, j'y ai toujours vécu. Ça commençait par des cauchemars que je faisais quand j'étais gosse, et des cauchemars où je me trouvais en présence d'êtres qui pour moi étaient vraiment des réalités. J'ai trouvé leur nom depuis, d'ailleurs c'était tout simplement les Érinies. C'était des femmes noires, avec des voiles noires. À la première apparition, c'était des veuves à peau noire et avec un groin. Mais c'était réellement très très effrayant. Et elles m'attaquaient. Elles posaient leur groin sur moi et elles soufflaient. Et alors à ce moment-là, je devenais noir moi aussi. Enfin, tout ce qu'elles touchaient comme ça devenait noir. Et il y a eu entre ma mère et moi des rapports extrêmement ambivalents. Et sur le plan du rêve, je la tuais. Je la tuais, j'ai continué, mais alors ça a duré pendant des années, et même récemment encore.
Après, c'est pas tout, l'adolescence n'est pas plus gaie. Bon, l'adolescence, il se trouve qu'il passe son bac en 1941, en pleine guerre. Sa mère, qui était devenue alcoolique, elle est morte après avoir fait une ou deux cures de désintoxication. Et puis, l'été 1944, il était à Saint-Dié avec son père et son frère. Et son père a été tué par un bombardement américain. Et donc, il s'est retrouvé avec son frère totalement orphelin. Et puis, donc, il n'a plus été question d'études. Il a commencé à faire des petits boulots, donc, à Saint-Dié. Et puis, le samedi soir, il était pianiste de bal. Et il faisait pianiste, parce que comme ça, ça évitait de faire remarquer qu'il n'avait pas beaucoup de goût pour danser avec les filles. Et ça, c'est aussi un moment de sa vie très difficile où il comprend qu'il est attiré par les garçons, qu'il est homosexuel. Et vous imaginez dans un village comme Saint-Dié. Alors il a fini par revenir à Paris. Il avait décidé, quand il a renoncé à faire des études, qu'envers et contre tout, il serait écrivain, qu'il raconterait des histoires, qu'il serait écrivain.
C'est vrai qu'il avait décidé, apparemment dit-il, à partir de l'âge de 7 ans.
Oui.
Il avait la vocation de devenir écrivain.
C'est le plus beau métier du monde, oui, disait-il, raconter des histoires.
L'histoire du prince Pipo, Claude Lapointe, c'est le premier texte de Gripari que vous avez illustré.
Oui. Le sujet, c'est de parler du passage de l'enfance à l'adolescence, mais il parle surtout de la petite enfance où les parents sont rois, où sa maison est un palais, qu'il va quitter pour retrouver après une expérience, je vais dire l'expérience du volcan, des parents pas très sympathiques. C'est vraiment la catastrophe. Tout a dégringolé, le palais est devenu une vieille ferme. En gros, le livre est entre les deux. Donc au début, on a une expérience faite par Pipo et son cheval, qui s'appelle Pipo aussi, et qui est rouge. Et puis, dans cette histoire-là, quand même, on marche sur un tapis, et quand on soulève un coin du tapis, il y a de la braise dessous, je dirais. Mais dit d'une façon tellement, je dirais presque naïve, c'est ça qui est sidérant. Il parle de l'onanisme quand même. Enfin, il n'en parle pas. Il décrit les phases de la montée du plaisir. C'est écrit.
Voilà, là, le cheval excité lève oui. La tête, hume le vent, puis se met à trotter d'un petit trot bien rythmé qui s'accélère petit à petit jusqu'au moment où il galope, emportant sur son dos le prince émerveillé. Le prince Pipo regarde sous lui. La terre est toute fangeuse, avec de larges flaques d'eau qui reluisent au soleil. En même temps, il s'aperçoit que le cône du volcan a triplé de surface, qu'il bouche tout l'horizon. Sans quitter le galop, il patauge dans les flaques, il fait gicler la boue, rejaillir l'eau dans toutes les directions. Le prince arrive tout de même à le faire obliquer en direction d'une grande forêt qui s'étend vers la droite. Le cheval s'y engouffre, mais ne ralentit pas. Le prince Pipo d'ailleurs ne s'inquiète même plus. Lui-même est tout entier au plaisir de la course. Il pousse son coursier dans une allée qui monte. Pipo le cheval a peine à garder son allure. Il ralentit peu à peu. La forêt cependant s'éclaircit. Les arbres deviennent rares, tordus, rabougris, et puis tout disparaît. Pipo n'a plus devant lui que 20 mètres de roc, et rien au-delà, sinon un rideau de flammes et de fumée qui jaillit furieusement vers le ciel. Il est au sommet du volcan.
On est bien là quand même. C'est quand même savoureux quand on le lit comme ça maintenant. Sous le tapis, la braise.
Mais c'est ça qui est beau avec Pierre Gripari, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture.
Et quand les gamins trépignent de joie quand ils lisent ces textes, c'est justement parce qu'eux sentent que ce n'est pas simplement une histoire au premier degré.
Il a mené une vie très austère. Curieusement, il avait une vie sociale, il avait des amis, mais c'était un peu superficiel. Il se retrouvait toujours dans sa chambrette le soir pour vraiment écrire. À cette époque-là, on trouvait du travail, c'était pas du tout comme maintenant, hein, c'était relativement facile. Mais il voulait absolument consacrer son énergie et son temps à l'écriture. À cause de ça, il a toujours fait ce qu'il appelait des petits boulots, qui lui assuraient, disait-il, la niche et la pâtée. Et il trouvait ça très bien, enfin il était content, il voulait consacrer toute son énergie à son œuvre. Il tenait beaucoup à sa solitude et il était très réservé d'une certaine façon.
Vous dites à son égard qu'il faisait l'éloge de la pauvreté. Il n'avait pas du tout envie de faire pitié, c'était un vrai choix chez lui que de vivre modestement, sans fioritures.
Et petit à petit, il s'est installé dans cette manière de vivre, et un peu comme un moine, hein, c'est-à-dire qu'il aurait été bien embarrassé de posséder quoi que ce soit. Et à la fin de sa vie, quand il a commencé à gagner sa vie assez correctement, grâce aux contes pour enfants et aux éditions Grasset Jeunesse, l'argent, il le donnait, hein. Il était très généreux.
Lieutenant-Tenant, c'est un succès.
Lieutenant-Tenant a été un faux succès, en réalité. Ça a été un faux démarrage et qui m'a fermé beaucoup plus de portes qu'il ne m'en a ouvertes.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. J'ai tendance à incriminer un certain nombre de facteurs. Il y a évidemment ce que j'appelle la censure gaucharde dans les milieux du théâtre, qui est très forte.
Vous n'êtes pas particulièrement gauchiste.
Non, pas particulièrement. Mmh. Et en plus, j'ai pas d'argent. Je pense qu'on peut se permettre de penser mal, comme c'était le cas de Roger Nimier, par exemple, quand on est une personnalité parisienne à voiture et qu'on sort, etc. Mais penser mal et être employé de bureau à mi-temps, ça c'est impardonnable. Ça fait vraiment partie des choses qui ne se font pas.
Alors, nous voilà devant le 13, boulevard de Port-Royal, avec une belle porte en fer forgé. Et à l'époque de Pierre Gripari, il y avait une plaque sur le mur à côté, et c'était indiqué « Le Plaisant Logis ».
Qui n'avait de plaisant c'était que pas... le nom.
Oui. C'était un hôtel meublé, style des années 50-60, parce que même quand il est arrivé là, ça n'avait pas dû être transformé depuis longtemps. Et il avait une chambre qui donnait sur la cour. C'était Ken Loach, on aurait fait un décor formidable. Hein. C'était tout à fait cette espèce de misérabilisme. Je me souviens d'un détail. Il avait un pantalon avec l'ourlet qui s'était décousu. Et alors, il avait agrafé son pantalon. Vous voyez, il faisait des opérations comme ça. Il avait des sandales, un peu comme un franciscain. Et il avait une casquette. Et il allait à l'opéra dans cette dégaine. Il y a un de ses confrères qui lui a dit un jour, « Toi, tu réussiras jamais parce que tu sens le pauvre. »
Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était invité par Giscard d'Estaing. À l'occasion d'une journée d'enfance, et il y avait des éditeurs, des auteurs, des sportifs, enfin tout le monde dans le palais de l'Élysée. Et Gripari était avec nous, donc premier contact. À un moment donné, Gripari s'en va. Moi, je fais pas trop attention, sinon qu'au bout d'un moment, on voit la foule s'écarter et on voit Gripari arriver vers nous, fendant la foule. Et qu'est-ce qu'il avait sur son bras? Des amuse-gueules qui venaient nous apporter. Alors, il avait une main pleine d'amuse-gueules, il en avait tout du long du bras. Sur son vieux costume élimé, il avait vu que des amuse-gueules arrivaient de loin, comme ça. Il s'est dit, je vais en ramener pour mes petits copains. Alors là, quand même, ça donne une idée d'un personnage assez extraordinaire. Quand on parle d'OVNI, puis à l'aise, évidemment. Même pas en train de dire, regardez ce que je suis en train de faire, je fais le malin. Pas du tout. Naturellement. Incroyable. Et après, à partir de là, de la rencontre, Monsieur Pierre, pour moi, c'était Gripari. Donc, j'ai fait une tête de Gripari. Et pour moi, c'était... il avait une tête de Tintin.
C'est lui. Celui-ci, il est en costume-cravate. Il est extrêmement austère, dans un bureau qui a l'air d'être, je ne sais pas, celui d'un notaire, peut-être, avec une immense bibliothèque derrière lui. Il a une petite houppette blonde qui dépasse, mais qui lui donne un petit grain de folie, mais vraiment minimal. Et il a un monocle.
Et je me suis planté, mais royalement, là. J'ai gommé tout ce qui est du conteur. Et j'ai su qu'il ne s'aimait pas du tout comme ça. Ce qui est étrange... C'est quand on arrivait vers lui, et quand on avait l'impression que c'était presque facile de discuter avec lui, de devenir copain, je sais pas quoi. Il y avait une facilité comme ça d'entrer en jeu avec lui, et tout de suite après quelque chose qui fermait, c'était pas quelqu'un de fermé, mais plutôt de l'ordre, mais on n'est pas sur les mêmes terrains. On n'est pas dans le même monde. Monde onirique, hein. Alors il partait. C'est un peu comme si, tout d'un coup, il n'était plus là, il était plus loin, il regardait autre chose, un satellite qui se détache.
Dans Rêverie d'un Martien en exil, il dit qu'il est un Martien, descendu sur Terre, et qui va observer la race humaine. Et c'est un peu le sentiment qu'on a sur toute sa vie. C'est quelqu'un qui a passé son temps en décalage, à essayer de décortiquer, de comprendre la psychologie humaine, les modes d'interaction en société, et qui s'est toujours senti extérieur.
Oui, c'est ça, tout à fait. Un ovni, un martien. J'ai toujours eu cette impression-là qu'il était impossible à cerner.
Alors, il y a une chose qu'il faut aussi... évoqué comme expérience humainement, c'est que
À la fin de la guerre, il s'est inscrit au Parti communiste. Et puis, il a donc vécu cette expérience du militantisme politique. Non pas qu'il ait été un militant très très actif, je ne crois pas. Il était plutôt intéressé par la pensée de Marx que par l'espoir d'une société idéale. Et puis, il travaillait à ce moment-là à la Mobil Oil. Il était délégué CGT. Il avait pris en charge la bibliothèque. Et il faisait ça avec toute sa spontanéité personnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de recommander les livres soviétiques, enfin de propagande, il recommandait Gogol et Tolstoï. Et ça n'allait pas du tout. Il était toujours à côté de la plaque, vous voyez. Et à un certain moment, quand il a pris conscience de ça, que ça se reproduisait en permanence, cette situation, au lieu de se dire, je vais m'adapter.
Je vais me conformer.
Je vais me conformer, exactement. Au contraire, il trouvait qu'il n'y avait pas de raison, du moment qu'il était sincère et puis qu'il avait raison de son point de vue. Et ça n'a fait que s'aggraver jusqu'à la fin de ses jours. Il a assumé de plus en plus sa différence, son originalité.
Alors, à propos du Parti communiste, il a écrit « Quand je me suis aperçu que le parti nous bourrait le mou depuis 20 ans, qu'il dupait, qu'il déshonorait la classe ouvrière et que la réalité du socialisme était plus proche de la description du Figaro que de celle de l'humanité, alors là, plus de complexe. »
Il a fait un peu comme tout le monde, il l'a quitté parce qu'il s'est rendu compte de la réalité. Il y a eu le rapport Kravchenko, il y a eu Budapest, le rapport de Khrouchtchev, l'attitude du Parti communiste français. Enfin, tout ça, il fallait vraiment avoir la foi chevillée au corps pour rester communiste dans le milieu de tous ces événements. Mais lui, il a perdu le contact et il a renoncé à ça un peu avant, comme toujours. Alors, il a commencé à le dire et puis surtout à écrire des nouvelles en particulier qui se moquaient du parti ou du communisme d'une manière extrêmement efficace. Ça n'a pas arrangé ses affaires, évidemment. Et ça lui a inspiré des choses très drôles, comme l'histoire de la momie de Lénine, des nouvelles très amusantes, et aussi des nouvelles très profondes, comme une qui s'appelle Dieu aussi, qui raconte l'histoire d'un personnage en Russie, enfin en Union soviétique à l'époque, qui est philosophe. On lui demande, en haut lieu, d'écrire un essai pour en finir avec l'existence de Dieu, qui montre que quand même c'est pas possible, Dieu n'existe pas. Alors il se met au boulot et puis plus il avance, plus il se rend compte que Dieu n'existe pas, mais il existe d'autant plus qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut décider philosophiquement, rationnellement, que Dieu n'existe pas, mais ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est pourquoi les hommes en ont besoin. Voilà. Il était assez pessimiste sur la nature humaine, mais avec une espèce de tendresse en même temps pour les hommes. Il aimait à démolir les idées, les croyances, mais ça ne l'empêchait pas d'aimer les gens.
Et puis l'autre sujet sur lequel aussi il s'est beaucoup fait les dents, c'est la religion.
C'est Dieu, oui. Pour lui, c'est un personnage de roman, c'est un personnage littéraire, Dieu. Et il disait souvent que l'Ancien Testament était vraiment un chef-d'œuvre, de même que l'Iliade et l'Odyssée, les grands Gilgamesh, enfin les grands récits mythiques de l'humanité, que c'était un livre formidable. Que l'Éternel, Dieu le Père, c'était vraiment un personnage fascinant, méchant, jaloux, surhumain, surhumain, quoi. Mais que Jésus, alors franchement, c'était un personnage falot, qui n'avait pas beaucoup de caractère. Évidemment, quand ça tombait dans l'oreille d'un catholique traditionnaliste, c'était pas très bienvenu. Mais il le disait en éclatant de rire, et puis sans aucun mépris, quoi.
Si à la fin de sa vie, il ne se serait même pas inventé un personnage fictif qui serait un peu gripotard, comme on a Gainsbourg et Gainsbard, un personnage un peu déviant, qui cultive sa différence, sa marginalité. Est-ce que d'une certaine manière, le personnage n'aurait pas échappé à son créateur ?
Oui, c'est possible. Et puis, il y avait surtout cette idée de la provocation. Et la provocation, c'est aussi quelque chose de très enfantin, finalement. Sauf que quand on a 40, 50, 60 ans, la provocation, elle a des conséquences. Il a par moments, peut-être, effectivement, été un peu dépassé par ça.
En tout cas, on a beaucoup reproché à Pierre Gripari de s'être inexorablement rapproché de l'extrême droite sur la fin de sa vie, alors qu'il avait commencé pendant sa prime jeunesse, il était communiste.
Ce balancement et ce basculement qu'il a fait. Et on me l'a souvent reproché, par exemple, quand je montais ces textes-là. Et je me souviens de réactions très violentes de gens. Ils disaient, mais comment vous pouvez défendre cet hommage? Comment vous pouvez lire Céline? Comment vous pouvez... Ben voilà, à un moment, il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est ce qu'il a écrit. Et tout me plaît. C'est-à-dire, je crois avoir à peu près tout lu. Après, le bonhomme, voilà, j'ai mon gré Paris. Et... Mais finalement, moi, ce basculement qu'il a fait vers l'extrême droite, je le vis presque, enfin, c'est ce que je me raconte, mais presque comme une provocation. Le côté sale gosse.
C'est du jeu.
C'est du jeu. Alors, c'est un jeu un peu, enfin, un peu très dangereux et qui paye cher maintenant. Et qu'il a payé cher à l'époque, puisqu'il a été complètement placardisé, quoi. Comme il disait, je suis un anarchiste total, et voilà, et il y a cette... Pour moi, on reste dans cette idée de la provocation. Je préfère le laisser dans cette ambiguïté-là.
Vous, Claude Lapointe, quel était votre sentiment quant aux reproches exprimés à l'encontre de Pierre Grépari? Vous qui l'avez côtoyé, pas de façon intime,
oui, oui,
mais sur une période quand même assez longue, et qui aviez son estime, comment vous, vous le perceviez?
J'ai une sorte de réponse pour moi qui m'a rangé un peu, je sais pas trop. J'ai cru comprendre qu'il avait souffert en étant gamin du fait qu'on ne le reconnaisse pas. Même dans la cour de récréation, je me trompe peut-être un peu, c'était celui qu'on n'allait pas voir pour jouer, et même le bouc émissaire. Sa réaction pour exister a été d'emmerder les grands de l'école, enfin les autres. Et je dirais que pour faire une image, il venait de donner un grand coup de pied dans les jambes des copains. On lui tombe dessus, et quand on tombe sur quelqu'un, il existe. Alors ça paraît fou, mais je crois que adulte, il a fait la même chose. Il n'a pas donné des coups de pied dans les tibias. Il s'est mis sur le dos les pires adjectifs qu'on puisse donner, parce que c'est trop quand même. C'est un peu beaucoup. Et quand on le rencontre, quand on voit à quel point il est bonhomme, il a une forme de gentillesse, il est doux, il est rond. On comprend pas trop, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se retenir de tous ces mots, de toutes ces horreurs qu'on met sur lui. Je crois que c'est lui qui se les a mis, c'est pas possible.
Pierre Grépari, parfois vous provoquez aussi, parfois. Parce que vous pouvez être méchant, vous pouvez être sévère.
Oui, oui, je peux être méchant.
Vous pouvez être pointu.
Oui. Oui. Je peux être agressif, mais je suis pas partisan de l'agressivité gratuite. Au fond, je suis pas partisan de contrer les personnes. Je m'attaque aux idées, alors aussi violemment que possible. Il y a des choses qui me paraissent parfaitement monstrueuses et je vois pas pourquoi je le dirais pas, en fin de compte.
Lesquelles, par exemple?
Ah, mon Dieu, comment dirais-je, pour fixer les idées, le communisme, le judaïsme, le christianisme, enfin un certain nombre d'idéologies qui me paraissent vraiment monstrueuses. C'est le mot, quoi.
Vous confondez religion et idéologie, c'est la même
oui,
chose.
Oui, pour moi c'est la même chose. Je suis athée, et pour moi, une religion et idéologie, tout ça c'est de la dictature. C'est de la dictature morale, c'est de la police morale.
Vous êtes homme de droite, réactionnaire.
Je suis réactionnaire...
Fasciste ?
Plus fasciste, si vous voulez, que réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, dans le fascisme, quelque chose de positif qui prend acte de l'évolution du monde moderne. Le fascisme est une défense contre le communisme.
Pierre Grépari, aujourd'hui, dans quel parti, si vous deviez entrer dans une action politique, dans quel parti seriez-vous à votre aise ?
En
France, hein.
Oui, en France. Je n'en vois vraiment aucun, parce qu'il y a toujours quelque chose qui baille, vous voyez. Bon, la gauche, c'est pas possible. Côté stalinien, ça n'est plus possible. La gauche à visage humain, encore moins, parce que quand on a été stalinien, c'est plus possible d'être démocrate, on n'y croit plus. La critique de la démocratie libérale est faite, quoi. Et d'un autre côté, les partis de droite, il y a toujours quelque chose qui me défrise. Soit qu'ils soient chrétiens, soit qu'il soit nationaliste. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas nationaliste. Le nationalisme a fait aussi un mal énorme. Alors, quoi? Je ne sais pas.
Vous êtes tout seul quelque part?
Je m'inventerais peut-être un parti néo-fasciste, à la fois social et européen, mais qui ne serait pas antisémite, justement. Enfin, qui ne serait pas.
entendons-nous, qui serait anti-juif mais pas antisémite. C'est-à-dire que je considère que la culture basque et la culture bretonne, n'est-ce pas, doivent avoir droit de cité dans l'Europe de demain, mais que la culture yiddish également.
Il a payé cher son anticonformisme parce que, avant de se faire publier, notamment chez Grasset, c'est le moment où pour lui le vent tourne quand Grasset Jeunesse décide de publier les contes de la rue Broca et puis tous ses écrits pour enfants par la suite. Jusque-là, ça fait quand même 20 ans que Pierre Gripari écrit des livres pour adultes, qu'il a un mal fou à faire publier. Il fait le tour de la place de Paris, qu'il essaye de trouver un éditeur en vain. Il a le statut de l'artiste maudit quand même un peu à l'époque.
Oui, tout à fait. C'est miraculeux sa rencontre avec Grasset, mais c'est miraculeux aussi sa rencontre avec Vladimir Dmitrievitch. Et ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici, Vladimir Dmitrievitch. Il avait lu L'incroyable équipée de Phosphornolok, le deuxième livre qui a été publié à la table ronde de Pierre Gripari. Il avait trouvé ça absolument extraordinaire.
Et vous savez ce que Dmitrievitch a aimé dans Phosphornolok ? Qu'est-ce qui a attiré son attention à ce point ?
Le fait que d'abord tout est possible. C'est l'histoire d'un savant qui s'embarque pour l'Amérique pour démontrer que l'Amérique n'existe pas. Et si l'Amérique n'existait pas, voilà. Donc, tout ce qui n'est pas vrai, c'est vrai. Il faut dire que Vladimir Dmitrievitch était un connaisseur très, très averti de la littérature slave, qu'il a beaucoup diffusée. Il a fait partie de ces gens qui ont promu la littérature dissidente à la fin du communisme. Donc, il lit Phosphornolok. Il entend parler de Gripari. Et il téléphone à Pierre en lui disant « j'aimerais bien vous rencontrer, j'ai beaucoup aimé vos livres, mais je pense que vous avez des éditeurs, enfin que ça marche bien pour vous et tout ça. » Et Pierre lui dit « pas du tout. » Alors il vient le voir, il a dû comprendre tout ce qui se passait. Et du coup, ils sont devenus très amis et Dimitri lui a dit « moi, je vous prends comme auteur, j'édite tout, tout, tout. » Après, Vladimir Dmitrievitch n'était pas quelqu'un qui avait un calendrier, une gestion, une politique commerciale, il s'entendait bien avec Gripari de ce point de vue-là. Évidemment, il aurait mieux valu qu'il vende 30 000 exemplaires de chaque livre, mais on ne va pas trop en demander.
Dans le monde de l'édition, Vladimir Dmitrievitch avait la réputation d'être un chercheur d'or. En rencontrant Pierre Gripari, il a sans conteste déniché une pépite, qui ne lui a pourtant rapporté que des kilos de plomb. Car les contes de la rue Broca et de la folie Méricourt ont évincé tous ses autres écrits, ses 141 nouvelles, ses 14 romans et ses 34 pièces de théâtre. Gripari l'alchimiste ne fait pas recette. Aujourd'hui comme hier, il reste un auteur indéfendable, impubliable et invendable. L'écrivain Alain Pocard, auteur d'un livre d'entretien intitulé « Gripari mode d'emploi », se souvient de ses attaques féroces contre l'orthodoxie sous toutes ses formes et de sa nomination comme président d'honneur au Club des Ronchons.
C'est une idée qui m'est venue pour tous ceux qui n'aiment pas leur époque, qui trouvent que l'idée de bonheur est une idée totalitaire. C'est interdit aux femmes, aux enfants, aux animaux et aux plantes vertes. Mais à titre exceptionnel, on avait fait rentrer Geneviève Dorman, donc... Non, c'était histoire de pas être dupe de la modernité, si vous voulez, c'est ça. Gripari aimait pas tellement l'idée du club au début. Bon, il l'avait rejoint parce qu'on était une bande de copains. Et après, comme on a commencé à faire des livres collectifs de ronchonnage ou de ronchonitude, à ce moment-là, ça lui a beaucoup plu parce qu'il adorait écrire et avoir des textes publiés. Le club des ronchons est pas ce qui a le plus occupé Pierre Gripari quand même. Hein.
Et comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux?
Eh bien, écoutez, je tenais une petite librairie, il y a très longtemps, sur le boulevard Saint-Martin, on est en 69, et il est arrivé, j'ai pas compris qui il était, il s'est empêtré, je lui dis, qu'est-ce que ce fou qui rentre? Et il n'était pas rentré depuis 3 minutes, il m'expliquait qu'il était homosexuel, qu'il aimait beaucoup le cinéma fasciste, notamment la fameuse Corona di Fiero de Blasetti, qui est un classique du cinéma italien. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce fou qui est rentré dans la librairie? Mais ça, c'était le personnage, et on ne pouvait pas ne pas tomber sous son charme.
Alors Alain Pocard, expliquez-moi, Pourquoi fallait-il un mode d'emploi pour comprendre Pierre Gripari ?
Parce qu'il était à la fois tout et son contraire aussi. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas être dans... On n'aurait jamais vu dans le centrisme, si vous voulez. Il fallait qu'il soit d'une certaine façon... son stalinisme, il y croyait mordicus. L'extrême-droitisme, il y croyait beaucoup moins parce qu'il était passé déjà par l'épreuve de la politique et il savait que tout ça, c'était de la blague. Mais quand il n'a eu aucun succès au début des années 60 et que les seuls gens qui ont dit du bien de lui, c'était des gens qui écrivaient dans Rivarol, il est allé vers ces gens qui disaient du bien de lui. Et vous savez, le fin fond de ça, c'est quand même, on est dans un pays de guerre civile permanente. On veut pas Aragon parce qu'il a été stalinien, et on en veut à Gripari parce qu'il s'est retrouvé un jour sur cette affiche. Voilà. Mais si on n'était pas dans un pays de guerre civile, ça ne poserait aucun problème, ni à Aragon, ni à Gripari. Enfin, c'est évident.
Aujourd'hui, près de 30 ans après sa mort, quel souvenir en gardez-vous ?
D'un pessimiste joyeux qui n'a absolument pas confiance du tout dans l'avenir, qui pense que l'homme peut être vraiment pire qu'un loup, hein, une salope pour l'homme, puis en même temps qu'il y a toujours une blague à raconter, qui se marre de tout, qui n'a pas d'a priori, justement. On lui dit, tiens, je te présente un copain avec des idées... Il dit, tant pis pour vous, mais ça ne m'empêche pas que je vous trouve très sympathique. Enfin, c'est quelqu'un de très ouvert, mais il a fait aussi exprès de se mettre dans un placard. Hein, c'est un peu. Il a aussi joué ce jeu-là.
L'œuvre de Gripari connaîtra-t-elle une embellie ou au contraire, tombera-t-elle dans les oubliettes? Apparemment, sa pérennité est assurée si l'on en croit les astres. En effet, pour aussi curieux que cela paraisse, un thème astral est immortel, en ce sens que les planètes poursuivent leur progression naturelle. Pour le futur, on peut supposer, à la lumière des astres, que les années qui arrivent seront décisives et porteront Pierre Gripari à la postérité universelle, ni plus ni moins. Son œuvre sera reconnue particulièrement en 2018, où pour les 93 ans du maître, le sommet sera atteint. À partir de là, Pierre Gripari sera reconnu par tous comme étant un grand écrivain, tout simplement. Thème astral de Pierre Gripari, dossier H des éditions L'Âge d'Homme.
Si vous pensez à Gripari, qu'est-ce qui vous en reste? Comment vous aimeriez le représenter aujourd'hui?
Si on a référence à Monsieur Pierre, je ne peux pas m'enlever l'idée d'une certaine rondeur. Un sourire, large. Le côté malin aussi, je trouve, devrait ressortir de son portrait. Quand il parlait des choses, il le disait avec celui qui a tout compris. Les rides des sourcils, ses gros yeux. Enfin, je vais remettre un chapeau parce que... Chapeau blanc ? Non. Finalement, le chapeau du marchand de fessé. Et voilà donc un monsieur Pierre. Quelle drôle de tête.
C'était Une vie, une œuvre, Pierre Gripari, l'alchimiste. Un documentaire d'Odémilie Judaïque avec Anne-Martin Conrad, fondatrice de l'association des Amis de Pierre Gripari et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la vie et l'œuvre de Monsieur Pierre, paru aux éditions L'Âge d'Homme. Damien Bricoteau, comédien et metteur en scène de théâtre, qui a monté de nombreux spectacles à partir des textes de Pierre Gripari. Claude Lapointe, illustrateur des contes de la rue Broca et de la folie Méricourt, aux éditions Grasset Jeunesse. Merci à Andonia Dimitrievitch-Borel, directrice des éditions L'Âge d'Homme, à Ina Saranowska, auteure d'une thèse en littérature intitulée « Un passeur d'écriture, Pierre Gripari et les traditions littéraires » et aux éditions Grasset Jeunesse. Prise de son, Audrey Guélil, Benjamin Chauvin, Martin Guénard, Alexandre Billard et Jean Frédérics. Mixage, Éric Boisset. Toutes les références bibliographiques sont à retrouver sur le site d'Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Christine Bernard, assistée de Pascaline Bonnet.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr, une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.